Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc Yvan Rioufol pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour monsieur Rioufol. Alors, vous vouliez tout d'abord nous parler du sujet de la mort de la petite Liana. Alors, dites-nous quels enseignements vous en tirez.
Tout d'abord, constatons qu'il y a une émotion, une révolte collective. Il y a eu d'abord cette marche blanche dans le Gers dimanche. Il y a eu hier des manifestations spontanées devant des tribunaux. Il y a eu une foule qui est venue envahir la place Vendôme, là où se trouve le ministère de la Justice. Et d'ailleurs, moi, j'y vois les prémices de cette révolution des oubliés sur laquelle j'ai fait un petit livre très récemment, car cette fois, ce que l'on voit, c'est que cette révolte collective dépasse d'abord le fait divers lui-même, cette tragédie, mais elle transcende également les partis politiques, parce que cette fois-ci, en effet, ce n'est plus un immigré sous OQTF qui tue une jeune fille. Là, je pense à Lola, je pense à Philippine, je pense à bien d'autres victimes, mais c'est un Français, un père de famille, qui a commis ce crime horrible. Et la gauche, qui hurle généralement à l'instrumentalisation politique lorsque l'immigration est montrée du doigt, n'a pas cette fois utilisé cet argument pour tenter de sous-évaluer, de banaliser cet assassinat, qui est en fait le résultat, en effet, d'une débâcle collective. Et moi, j'ai bien aimé, en effet, d'entendre le maire de Fleurance, donc cette petite ville du Gers, le maire s'appelle M. Grégory Beaubateau, qui a été particulièrement inspiré en parlant dimanche, à l'ouverture de cette marche blanche, d'une défaillance sociale, d'un système politique qui étouffe, et naturellement d'un pays en colère, parce que c'est bien sûr ceci qui saute aux yeux. Et disant cela, le maire de Fleurance a été bien au-delà de l'analyse très paresseuse d'Emmanuel Macron, qui a déploré un simple dysfonctionnement de la justice. La famille elle-même, la famille de la victime, a elle-même eu raison de juger le monde politique indésirable lors de cette marche blanche, car en effet, le monde politique a sa part dans le délitement de la nation. Il y a naturellement, incontestablement, une faute du parquet qui a traîné dans l'ouverture du dossier, en dépit des plaintes multiples qui avaient été déposées. D'ailleurs, on peut s'interroger sur la disparition du juge d'instruction, qui, s'il avait été maintenu, aurait permis précisément une plus grande réactivité de la justice. Et ici comme ailleurs, on s'aperçoit que la parole de l'enfant qui ne vote pas, qui ne manifeste pas, n'est plus prise au sérieux. On en voit les conséquences dramatiques également, avec des révélations très tardives sur les scandales pédocriminels dans le périscolaire public, à Paris notamment, mais pas qu'à Paris. Et donc c'est cette responsabilité qui est celle d'abord d'un système plus général, sachant que le poisson, pourri par la tête, c'est en effet d'abord au sommet de l'État qu'il faut désigner le responsable, et c'est plus généralement 50 ans de politique menée en dépit du bon sens qui devrait être jugée. Moi, j'entends dire aujourd'hui que les magistrats, les juges, vont devoir désormais répondre de leur manquement. Pourquoi pas ? Il est bon en effet que les juges ne soient jugés par d'autres juges que les juges eux-mêmes. Bien entendu, ce n'est pas à eux de se juger eux-mêmes, mais les juges n'ont pas non plus les boucs émissaires d'émissions collectives qui existent depuis maintenant un demi-siècle, d'émissions collectives qui sont portées par une caste politique qui a été contaminée, de mon point de vue, par d'un côté une idéologie et de l'autre côté par cette irresponsabilité de la bureaucratie. Et donc je trouverais normal, puisque l'on exige des juges qu'ils rendent des comptes, je trouverais normal que l'on exige des décideurs plus généralement qu'ils aient aussi à rendre des comptes pour les aberrations, les désastres, les trahisons, les hautes trahisons même, qu'ils ont pu produire depuis maintenant 50 ans. Ce n'est pas seulement la justice qui tombe en ruine, c'est le pays lui-même.
Mais je voudrais, Yvan Rioufol, alors vous aviez prévu une relance, mais je vais vous en donner une autre. Mais vous citez un père de famille, donc c'était sur BFM TV, qui a interpellé Gérald Darmanin, donc en direct à la télévision. Je vais vous donner la citation. « Je paie des impôts et en fait vous faites quoi avec ? Je vous ai écouté parler, vous me dites la 7e puissance mondiale. » Alors pardonnez-moi, mais j'en ai rien à foutre, voilà. « Demain ça arrive à ma fille, je le traque, je vous traque tous, je règle le problème moi-même. » On a la trouille de faire un référendum sur la peine de mort. Non, on ne touche pas aux enfants. Je ne sais pas dans quelle langue il faut que vous compreniez ces choses-là. Il a fallu la mort de Liana pour que ça provoque un sursaut. Mais jusqu'à quand? Il va y en avoir d'autres puisqu'il y a des pédocriminels encore dans la nature. Et ça ne choque personne. Donc, d'une certaine façon, ce qu'il dénonce, c'est effectivement l'irresponsabilité même de la de l'administration suprême, quelque part, en France, du ministre lui-même qui attend qu'il y ait cette réaction pour... Enfin, qu'il y ait cette affaire pour avoir la moindre réaction, alors qu'il y en a eu d'autres, des affaires comme ça par le passé.
Oui, ben c'est ce que je vous expliquais précédemment. Nous vivons ce que j'ai appelé cette révolution des oubliés. Et cette révolution des oubliés ne se contente pas, en effet, d'un bouc émissaire qui désignerait les juges comme étant les responsables de cette tragédie, mais qui désigne, en effet, tout un système. C'est tout un système qui doit céder la place et c'est tout un système qui est incapable de reconnaître ses propres manquements. Et naturellement, c'est là où je voulais en venir, c'est que, face à cette situation précisément de déliquescence, de banqueroute d'abord, et puis de possible guerre civile, cette caste qui est au pouvoir doit maintenant céder la place. Et ce que disaient les propos que vous répercutez de cet interlocuteur sont tout à fait en cohérence avec ce que j'entends moi aussi de cette colère sourde des Français qui exige aujourd'hui de ceux qui les gouvernent, à tout le moins qu'il s'excuse, et d'ailleurs Darmanin s'est lui-même excusé au nom de l'institution judiciaire, mais même qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et oui, on aurait pu attendre de Darmanin lui-même qu'il présente sa démission, parce que dans le fond, cette carence de l'institution judiciaire est bien d'une institution judiciaire qu'il préside, de la même manière que l'on aurait pu attendre d'ailleurs de Laurent Nunez qu'il présente sa démission, le ministre de l'Intérieur, qu'il présente sa démission après la razzia et les intifadas qui ont terrorisé les Parisiens et d'autres d'ailleurs. Après la victoire du PSG, on pourrait attendre même la démission du nouveau maire de Paris après les révélations des crimes pédophiles qui se sont installés sous sa propre indifférence alors qu'il était maire adjoint. Mais tous ces gens-là ne démissionneront pas. Donc il n'y a rien à attendre de ces élites. Et c'est effectivement ce que disent tous ces Français oubliés. Et quand j'entends le système hurler dans ces cas-là au complotisme ou à l'ingérence russe dès que ces élites-là sont mises en cause, cela rajoute en effet à la rage, si je puis dire, qui habite maintenant la société civile, car l'étendue des désastres ne s'arrête pas simplement à la faillite des comptes publics, ne s'arrête pas non plus à la démission des juges. C'est 50 ans, encore une fois, c'est 50 ans d'idéologie mondialiste, immigrationniste, cautionnée par la gauche et la droite, qui ont produit cette contre-société, qui pour partie ne se reconnaît plus comme étant française. Dimanche, il y avait donc cette marche blanche, mais il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon au même moment qui, à Saint-Denis, a fait une démonstration de force sur la réalité de ce qu'est cette nouvelle France dans son meeting qui était censé lancer sa campagne présidentielle. Or, il était intéressant également de s'arrêter à ce meeting-là, car dans ce meeting, la foule hurlait à son tour « On est chez nous !» pour signifier l'accomplissement du grand remplacement ethnique, racialiste, au détriment des indigènes, au détriment des Français de souche, qu'ils voient comme étant un problème pour la cohésion nationale, avec ce paradoxe que la foule était blanche. Et donc qu'il y a aussi là une sorte d'incohérence idéologique à voir une partie de la France applaudir à sa propre disparition. Mais c'est cette victoire racialiste de Mélenchon qui porte en elle toutes les caractéristiques d'un autre danger qu'il faut également analyser, qui est celui d'une pente totalitaire. Parce que au-delà de tout ce que l'on décrit, il y a également cet autre risque, une pente totalitaire. Moi, je parle même d'une pente fasciste, d'un nouveau fascisme, du moins si on s'accorde à définir le fascisme comme étant le culte de l'homme nouveau. Et en l'occurrence, là, Mélenchon nous parle de la Nouvelle France. Si l'on s'accorde à dire que le fascisme s'identifie également à la violence...
On pourrait tout simplement dire le bolchevisme ou...
Je dis le fascisme qui également se définit par la violence. On a vu effectivement que le meurtre de Quentin Derenck avait été excusé par ce qu'ils appellent les antifas, qui pour moi sont des néofas. On entend le nouveau maire de Saint-Denis parler d'insurrection. J'ai entendu le député Bilongo, c'était un peu plus tôt avant, qui assure « nous, on est plus intelligents que les autres, on est plus endurants ». Et donc il y a aussi une sorte de suprémacisme qui s'est installé au cœur de cette doctrine mélenchoniste, qui s'est alliée d'ailleurs à l'islam politique, qui lui aussi assure dans le Coran, parlant des musulmans, vous êtes la meilleure communauté du monde. Donc on voit bien qu'il y a tout cet environnement qu'il faut également dénoncer aujourd'hui très ardemment, et c'est cette France naufragée qui doit aujourd'hui se réveiller, et je me réjouis de voir qu'en effet, cette révolution des oubliés, dont j'ai décrit les ressorts très récemment, s'exprime maintenant à travers des manifestations spontanées ou à travers des prises de parole comme celles que vous avez relatées, qui maintenant exigent des hommes politiques des résultats. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ici ce matin sur Ligne Droite, et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine.
Ligne Droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour cette analyse, eh bien, nous retrouvons Mériadec Raffray comme chaque semaine. Bonjour Mériadec.
Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Je note que vous avez mis une cravate ce matin, Alexandre.
Oui, effectivement, c'est parce que je sais que quand élégant. Je ne mets plus, vous me faites des
déçu,
remarques, alors
déçu.
Forcément, bravo, maintenant je fais attention. Je laisse l'antenne à
le
Richard
style,
de Cesse.
Bientôt. C'est l'homme.
Merci, merci.
Voilà. Ok, je me sens un peu nu. Voilà,
bien fait, voilà.
Écoutez, voilà. Le printemps, c'est la fin du printemps, il faut plaisanter un peu.
Mais voilà, et puis en plus, vous non plus. Donc,
exactement, donc, moi j'en mets jamais. Donc,
je pense que c'est une question d'âge finalement.
Voilà, exactement.
Mériadec Raffray, bonjour. Donc vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Ce qui nous a...
Oui, parlons des sujets sérieux.
Oui, ouais. Parlons des sujets sérieux, ouais. Et notamment parlons de la manière dont Benjamin Netanyahou et Donald Trump ont l'air d'avoir vécu leur lune de miel, d'avoir mangé leur pain blanc. Et Trump est très énervé vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, qui défend son droit à l'autodéfense, donc, ce qui signifie en fait bombarder violemment tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et comment ce conflit israélo-irano-américain va-t-il déboucher sur en fait peut-être un autre conflit purement américano-israélien?
Alors, parfois, j'ai l'impression d'être un peu monomaniaque et de parler toujours des mêmes sujets, en l'occurrence le Liban. Et je voudrais simplement expliquer à nos lecteurs que, d'une part, si nous parlons régulièrement du Liban ici, c'est parce que le Liban a un lien historique avec la France et que c'est logique d'en parler. Deuxièmement, en suivre les sujets dans la durée, cela permet en fait de véritablement comprendre et analyser les évolutions des acteurs. Et c'est là où je voulais en venir, et vous avez raison. Aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure, enfin en tout cas moi, je suis en mesure en tant qu'analyste, en tant que journaliste, je vais régulièrement sur le terrain au Liban, je parle avec beaucoup d'acteurs libanais ou des observateurs ou des gens qui sont des militaires qui sont intégrés dans ce conflit. Et en fait, ce que l'on comprend aujourd'hui de manière très nette, on pouvait l'imaginer, on pouvait le déduire il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que Netanyahou, en quelque sorte, voulait asservir le Liban. Mettre le Liban à sa botte, ou le Liban, le Hezbollah, on pourra en reparler si vous voulez. Mais en l'occurrence, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le Liban qui piège le Netanyahou. Netanyahou est pris à son propre piège escalatoire et cette fuite en avant guerrière au Liban. C'est ça qu'il... et ça, c'est factuel, si vous voulez. En deux mots, comment on peut illustrer cette analyse? C'est que il y a quelques jours, il y a une semaine maintenant, une bonne dizaine de jours, lorsque les négociations à Washington de paix entre les émissaires israéliens et libanais ont pris une tournure plus sérieuse sous l'égide de Marco Rubio, le patron de la diplomatie américaine, Netanyahou, je pense, et son entourage s'est dit, à un moment donné, il va bien falloir qu'on lâche du lest au sud Liban parce que Trump a besoin de quelque chose qui ressemble à une paix pour en terminer avec les mollahs iraniens. C'est très important, je pense, je l'ai dit plusieurs fois ici, mais en fait, ce que l'on comprend et ce qui est évident maintenant, c'est que dans la balance du règlement global du conflit entre les États-Unis et l'Iran, les Iraniens ont posé comme préalable ce qu'ils appellent la cessation des hostilités, la paix au Liban. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que Israël arrête de frapper le Liban. Trump veut sortir du piège, de son piège à lui, le piège du Moyen-Orient. Et donc, quand Netanyahou a été obligé d'aller négocier à Washington, il s'est dit qu'à un moment donné, il allait être coincé par Trump. Et comme il fait souvent dans ces cas-là, il a ordonné en fait à ses unités à Tsal, à ses unités des forces armées israéliennes, qui étaient concentrées jusqu'à présent relativement dans la bande des 10 km le long, adossée à la frontière côté libanais, cette fameuse bande de sécurité qu'il avait décidé de prendre pour éloigner les tirs directs du Hezbollah sur son territoire. À ce moment-là, on a vu ces unités, il y a à peu près 10 000 hommes, hein, j'ai pas le chiffre exact, évidemment, il est confidentiel, mais c'est à peu près le volume de ce qui est assez important. On a vu ces unités faire un nouveau bond en avant, un nouvel effort terrestre, et en particulier dans le quart nord-est de ce qu'on appelle le sud Liban, c'est-à-dire cette bande de terre, je le rappelle, qui est coincée entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, c'est à peu près, une trentaine, une quarantaine de kilomètres de large, c'est-à-dire vers le nord maximum, entre 30, une trentaine de kilomètres. Cet effort a été couronné il y a quelques jours par le fait qu'une partie, un élément de tête de l'armée israélienne, en particulier un escadron de chars Merkava, a franchi le Litani. Alors, ce qui est l'ironie du sort, c'est que j'avais expliqué ici sur cette antenne que les Israéliens avaient cassé tous les ponts sur le Litani pour encager en fait le sud Liban. Et à ce moment-là, on a vu le génie de l'armée israélienne mettre des ponts sur le Litani pour permettre à ces chars de passer de l'autre côté. Donc on est dans le quart nord-est du pays et en quelque sorte se positionner face à deux grands points importants urbains. D'une part, la ville de Nabatieh qui se trouve donc de l'autre côté du Litani. Si vous voulez, là on est dans la zone coincée entre le Litani et un autre fleuve, le Zarani, qui lui-même coule à peu près au sud de Saïda et qui constitue une nouvelle boîte entre guillemets. Rectangulaire, un peu moins importante. Et dans la foulée, les Israéliens ont lâché leurs bombes comme jamais ils les l'avaient lâché, d'une part sur Nabatieh. Nabatieh, c'est un fief chiite de l'autre côté du Litani, où se sont réfugiés énormément de familles sympathisantes du chiite, fuyant donc les bombes du Hezbollah. Et Nabatieh, c'est aussi une réserve logistique de l'autre côté du Litani, si vous voulez. Et d'autre part, les frappes israéliennes ont ciblé pour la première fois, enfin pas pour la première fois, mais pour la première fois, à Tyr, le long de la mer, la grande ville le long de la mer, les quartiers historiques antiques, mais aussi les quartiers chrétiens. Il y avait une règle non écrite jusqu'à présent, qui avait été respectée dans ce conflit dont on parle depuis 2024, selon laquelle les Israéliens ne s'en prenaient pas aux quartiers chrétiens au Liban. Et pour la première fois, l'aviation israélienne s'est déchaînée contre ces quartiers chrétiens. Et les observateurs avec qui j'ai parlé expliquent uniquement ce déchaînement de violence gratuite. Parce que là, on est dans des ruines, on est dans du symbole. Et les observateurs avec qui j'ai parlé expliquent ça par une forme de vengeance par dépit. C'est-à-dire, puisque le Hezbollah, en fait, n'est pas éradiqué, puisqu'en fait, nous n'arrivons pas à stopper les tirs du Hezbollah, à ce moment-là, nous allons faire payer le prix le plus cher possible à ceux qui sont considérés comme ses soutiens. C'est l'eau du poisson Hezbollah, pour reprendre une expression chinoise. Et en fait, ce à quoi on a assisté ces derniers jours, c'est la mise en échec, je pèse mes mots, hein, la mise en échec de la fière et innovante technologique armée israélienne par les gueux, les terroristes du Hezbollah. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation tactique sur le terrain est la suivante. Les unités de Tsahal sont bloquées dans leur avance par des groupes du Hezbollah. Évidemment, si elles voulaient avancer et encaisser des pertes monstrueuses, elles pourraient le faire, et encore. Donc, mais pour l'instant, compte tenu en fait de la volonté évidemment des commandants de Tsahal de limiter les pertes à la fois matérielles et humaines dans leur rang, les unités de Tsahal sont globalement stoppées par cette résistance du Hezbollah. Et en fait, Moi, le premier, j'avais écrit en novembre 2024, à l'aune de ce que m'avaient dit tous mes contacts sur le terrain au Liban, tous ceux que j'avais rencontrés, des militaires français, des militaires libanais, des observateurs étrangers, tout le monde était d'accord pour dire que le Hezbollah avait été atteint dans sa dimension militaire, dans sa force militaire comme, et politique, comme jamais il n'avait été atteint par Israël. Je vous rappelle que en novembre 24, c'est donc la première trêve qui intervient après une séquence assez incroyable de l'armée israélienne. D'une part, des bombardements intensifs dans tout le Liban pour cibler des chefs, des arsenaux, etc., qui étaient connus du renseignement. Et d'autre part, cette fameuse opération des beepers qui a consisté à faire exploser quasiment en même temps, en deux vagues très resserrées, des appareils de téléphonie, si vous voulez, pour faire simple, qui étaient possédés par tout un nombre incroyable de cadres intermédiaires du Hezbollah. Donc décimant en quelque sorte en deux jours toute une partie d'encadrement du Hezbollah. Et on avait dit, et moi le premier j'avais répété ça, et je pense que à l'époque c'était compliqué de dire autre chose, que l'Hezbollah avait été atteint comme jamais et Israël avait gagné une victoire tactique évidente. Eh bien, ces derniers jours, on assiste exactement à l'inverse, c'est-à-dire à la résurgence telle du Hezbollah, et après je vais expliquer pourquoi, enfin essayer de détailler quelles sont les raisons de cette résurgence, qui tient tête, met en échec à nouveau, c'est pas la première fois, à nouveau la fière armée. Et une des raisons pour lesquelles ça allait bloquer, c'est l'utilisation cette fois massive, non pas des fameux missiles dont Israël parlait en permanence comme une arme qui allait pouvoir détruire des grandes villes en Israël, on parle plus de ça, on parle des drones low cost à quelques milliers d'euros, et en particulier des drones filaires, c'est-à-dire qui sont conduits, si vous voulez, à travers une onde portée dans un fil optique, une fibre optique, et qui sont donc qu'on ne peut pas brouiller. C'est ce qu'on trouve évidemment sur le front ukrainien. D'une part, et d'autre part, ces drones, ces nouvelles armes, sont servies par une nouvelle génération de combattants. Des jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont remplacé en fait tous ceux qui ont été tués en novembre 2024. Au passage, entre parenthèses, c'est ce que me disaient un certain nombre d'experts qui avaient beaucoup de recul. Ils me disaient, vous allez voir, les bombardements israéliens de 24 feront naître les terroristes et les résistants de, ça dépend de quel point de vue on se passe, de demain matin. Eh bien, nous y sommes. Les observateurs constatent que dans les rangs du Hezbollah actuellement, il y a énormément de jeunes ultra fanatisés, prêts aux martyrs, et qui ont intégré ces nouveaux outils de combat qui permettent aux faibles de tenir en échec le fort. Alors, évidemment, il faut être nuancé, c'est un échec tactique pour l'instant, et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est donc, on revient à Netanyahou. Netanyahou, en fait, en poussant à l'extrême cette logique jusqu'au boutiste de la guerre, sans aucune stratégie globale, en fait, c'est lui-même, à lui-même piégé de salle dans les collines verdoyante du sud Liban. Et ça c'est vraiment quelque chose de marquant, et si on pouvait le subodorer à l'aune de ce qui s'est passé en 2006, de la manière dont s'est passée la fin de la première occupation israélienne de 1982 à 2000, qui ont été toutes des échecs en fait stratégiques. Il y a eu des victoires tactiques, mais toutes ont été des échecs stratégiques, puisque nous sommes en 2026 et que l'Hezbollah existe toujours. À l'époque, c'était l'OLP de Yasser Arafat. Aujourd'hui, ça s'appelle le Hezbollah. Et non seulement ça s'appelle le Hezbollah, mais le Hezbollah est revigoré. Évidemment, j'ai oublié de dire aussi, grâce à l'envoi de gardiens de la révolution iranienne sur le terrain en Iran, malgré en fait la guerre et les frappes israélo-américaines sur le théâtre iranien. Et donc, Netanyahou aujourd'hui est piégé au sol. Premier piège. Deuxième piège, Netanyahou, je le disais tout à l'heure, est mis sous pression par Trump pour conclure une forme de paix en fait au sud Liban, pour trouver en fait le chemin de ce qu'on peut appeler une paix provisoire, temporaire, appelez-la comme vous voulez, bref, d'une forme de cessez-le-feu solide, consolidé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On parle d'un cessez-le-feu, mais ici j'ai dit que c'était un vrai faux cessez-le-feu, on le voit tous les jours. Je rappelle quand même qu'il y a quelques jours, le 7e casque bleu de la FINUL a été tué depuis le 2 mars dernier, la reprise des combats. Deux jours plus tard, en fin de semaine ou début de semaine, il y a eu la mort de trois militaires libanais dans une frappe israélienne, les forces armées libanaises, qui n'étaient pas arrivées depuis longtemps. Donc la guerre, elle existe, elle continue.
Oui, et puis sans parler des 3000 morts libanais civils.
C'est, évidemment, vous avez raison de le rappeler. Hein. Et en fait... Donc je disais,
il est piégé au sol.
Voilà, et plus Trump lui met la pression, plus en fait Netanyahou décide de décaler en fait, décide de hâter en fait le travail des troupes au sol, et c'est là où il se retrouve piégé. Et quand Trump l'appelle en fin de semaine en lui disant « tu es complètement fou », je répète les mots que Trump lui-même a confirmés dans sa bouche à une interview au New York Post, je crois, la semaine dernière, tu es complètement fou, tu veux à nouveau bombarder le Liban, car Netanyahou a dit, et son ministre de la Défense, Israël Katz, a dit lui-même, pour un mort israélien, il y aura 10 immeubles détruits à Beyrouth. Voilà la philosophie, et je ne fais que citer, c'est factuel, hein, c'est factuel, et je ne parle même pas des extrémistes du gouvernement, je parle d'Israël Katz, le ministre de la Défense, qui est quand même réputé être très idéologue. Donc Trump l'appelle, il lui dit il est hors de question que tu recommences les bombardements à Beyrouth, car ce serait un casus belli pour les Iraniens, je te rappelle que je négocie avec les Iraniens. On pensait que Netanyahou avait entendu la colère de Trump. D'ailleurs, c'est si vrai que dans la foulée, Yair Lapid, qui est un ancien premier ministre éphémère, un ancien militaire, qui est le chef de l'opposition, qui va concourir pour les législatives de novembre et qui compte bien défaire pour la première fois Netanyahou, une opposition qui est gentiment gauchiste et très centriste. Et j'ai repris les mots pour vous donner la citation, la réaction de Yair Lapid. Il dit, à propos de Netanyahou qui aurait lâché à Trump le fait de ne pas bombarder Beyrouth, et c'est là où Netanyahou est aussi piégé une deuxième fois, « Israël est désormais un État client à part entière de Washington », autrement dit, Netanyahou en fait obéir au doigt et à l'œil à Washington. « Il a entraîné le pays dans la plus grande, guerre de l'histoire du pays, la plus longue, et qui s'est terminé par une victoire, sans victoire pour Israël. Donc il est absolument sévère. Ce que je veux dire, c'est que Netanyahou était aussi piégé au sein dans son arène politique intérieure. Il faut savoir quand même que 58%, selon les derniers sondages, de la population iranienne réclame à corps et à cri une augmentation de la guerre d'Israël contre le Hezbollah. Ce pourcentage monte à 84% dans les rangs de la droite israélienne, et l'opposition, évidemment, joue de cet aiguillon pour essayer de mettre Netanyahou en difficulté. Donc Netanyahou, le jusqu'au boutiste, l'homme qui veut la guerre à outrance, qui est contraint par Trump, se retrouve à devoir lâcher du lest et du coup être mis en difficulté sur la scène intérieure par les opposants, qui eux-mêmes lui expliquent qu'il doit aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait, ce qui est évidemment une rhétorique politicienne. On connaît bien la manière dont la politique israélienne fonctionne. Voilà.
Et du coup, Netanyahou n'a pas du tout obéi à Trump. Alors, parce que c'est quand même la leçon de ces derniers jours. Alors, c'est que plus Trump expliquait qu'il avait fait entendre raison à Netanyahou, moins Netanyahou lui a obéi.
Alors, Netanyahou fait toujours comme il a toujours la même manière de réagir quand il est piégé, quand il est dos au mur. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Hein. C'est un type qui a une résilience, un leader politique qui a une résilience incroyable. Il y en a certains, quand ils sont acculés, ils lâchent l'affaire, ils disent stop, je me rends. Netanyahou, jamais. Et c'est une qualité, il faut bien le reconnaître. Et sa manière de réagir et d'essayer de sortir par le haut du piège, c'est à nouveau encore d'instrumentaliser la violence. Et à ce moment-là, Netanyahou a laissé croire à Trump qu'il l'avait entendu. Il a ouvert le feu sur Beyrouth. Et là, il a provoqué ce qu'on a vu ce week-end et lundi. Une réplique iranienne, la première frappe iranienne depuis, je vous rappelle, la trêve américano-iranienne du 8 avril dernier. L'Iran tire une salve de missiles sur Israël. Israël répond dans la foulée sur l'Iran. Et lundi matin, les Yéménites, les Houthis yéménites tirent à leur tour un missile d'avertissement sur Israël. Ça, c'est un véritable avertissement parce que on se retrouve, ça veut dire que, attention, si vous allez très loin, on va se retrouver non seulement avec le détroit bloqué d'Hormuz, mais également, on pourrait se retrouver avec un problème nouveau à gérer avec le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge. On en est là aujourd'hui. Donc, en fait, comme d'habitude, Netanyahou n'en fait pas tout à fait à sa tête. Il prend des libertés avec son parrain. C'est-à-dire, il a eu commencé par dire « oui, je ne vais pas beaucoup tirer ». Il tire un peu. Il envoie des signaux à son électorat israélien. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça va s'arrêter là ? Ce que disent les Iraniens. Les Iraniens disent « on a dit ce qu'on avait à dire, on a envoyé notre signal stratégique. Maintenant, est-ce que les Israéliens vont s'arrêter là ?» je suis incapable de vous donner la réponse. Simplement, ce que l'on peut esquisser comme analyse, c'est que les Israéliens feront tout, me semble-t-il, et peut-être que l'avenir me... Mais c'est une analyse que j'esquisse. Les Israéliens feront tout pour que la paix qui semble, dont les contours semblent être définitivement actés entre les Iraniens et les Américains, le paquet lui-même semble être acté, les Israéliens feront tout pour que ce paquet soit leur soit le plus favorable possible sur les questions qui leur sont crucial, c'est-à-dire le nucléaire. Et on peut imaginer que ce nouveau tir sur l'Iran est aussi un avertissement, un coup de pression mis sur les équipes de Donald Trump pour les dissuader de céder peut-être le chouïème supplémentaire, le pouïème supplémentaire qui serait selon eux inacceptable, mais qui pourrait permettre d'accélérer en fait le débouché de cette crise qui, on le rappelle une fois de plus, plus les négociations durent, plus le cessez-le-feu est fragilisé et plus le risque d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient est important. Et donc maintenant, si on veut la paix, ou en tout cas si on veut le déblocage du détroit d'Hormuz, il faut vraiment conclure. Et on peut imaginer qu'en obéissant finalement un peu, à moitié ou à moitié pas, ça dépend comment on voit les choses, à Donald Trump, Netanyahu et ses équipes ont aussi pris l'initiative d'envoyer un signal dissuasif à Trump en disant « Ok pour le Liban, mais ne lâche pas sur l'essentiel, selon nous, dans les négociations israélo-américaines ». Voilà où on en est aujourd'hui, mais on peut aller un peu plus loin. Et si je voulais être un peu plus politique, je dirais qu'aujourd'hui, celui qui bloque les négociations la consolidation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, c'est Benjamin Netanyahou. C'est l'homme qui aujourd'hui empêche, si ce n'est la paix, du moins le retour à une forme de normale au Moyen-Orient et au déblocage du détroit d'Hormuz. Celui qui prend en otage la paix et le détroit d'Hormuz, finalement, il y a celui qui le prend en otage physiquement, c'est-à-dire les Iraniens à l'intérieur du Golfe, les Américains à l'extérieur du Golfe, et le troisième preneur d'otages de cette situation, c'est Netanyahou.
Enfin, il ne faut pas oublier que c'est d'ailleurs Netanyahou qui a déclenché la guerre, quand même. Enfin, parce que dire que Netanyahou prend en otage la paix de la part de celui qui est l'agresseur, ça paraît juste légitime. En fait, Netanyahou a décidé de déclencher cette guerre et ne veut pas, lui, lâcher la rampe.
Netanyahou a persuadé les Américains d'activer les armes pour obtenir l'effet majeur dont ils rêvaient, dont Trump et Netanyahou rêvaient tous. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est que dans la le timing en fait du déclenchement de la guerre, c'est un renseignement qui a permis de localiser à un endroit donné le 28 février un paquet en fait de grands chefs, et l'occasion était trop bonne, et en fait c'est Netanyahou qui a conduit les Américains à déclencher un peu plus tôt que prévu cette guerre. Mais force est quand même de constater que dans la vision que Trump avait de l'Iran, finalement depuis 2018, mais même avant, Trump était aligné en fait sur la manière dont la droite israélienne voyait le Liban, voyait l'Iran. Donc simplement, Trump n'était pas tout seul au Pentagone, à la Maison Blanche, et il devait tenir compte de ceux qui étaient assez peu favorables à l'ouverture du feu en Iran. Et effectivement, vous avez raison, c'est Netanyahou qui l'a emporté dans cette escalade guerrière, dans l'utilisation de cette force qui s'avère aujourd'hui être finalement assez contre-productive d'un point de vue stratégique, même si les Américains et les Israéliens ont quand même affaibli durablement les deux en fait mamelles dissuasives des Mollahs, à savoir d'une part le programme nucléaire et d'autre part le programme balistique.
On va revenir dans les 5 minutes qui nous restent au Liban, donc qui est une espèce de victime collatérale absolument exsangue pour le moment, et avec cette invasion terrestre israélienne. Sous prétexte de détruire le Hezbollah, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises ces dernières semaines, plus on attaque le Hezbollah, plus le Hezbollah se renforce. Enfin voilà,
c'est l'hydre qui renaît de ses cendres.
Et c'est normal, après tout. Quoi qu'on pense du Hezbollah, ils sont d'abord libanais, ils peuvent se prétendre être des patriotes, quand bien même, évidemment, la manière qu'ils ont de défendre leur pays en attaquant Israël.
Cher Richard, ce sont en partie des Libanais, mais le fait qu'ils aient ouvert le feu le 2 mars.
C'est ce que j'étais en train de dire.
Voilà.
C'est une curieuse manière de défendre son pays.
Et d'être patriote.
Que d'être celui qui permet la répression la plus féroce. On se retrouve donc avec une armée libanaise étendue et de plus en plus sur un territoire qu'elle maîtrise mal, bloquée aussi en Cisjordanie, avec
une armée israélienne,
qui est incapable de garantir qu'elle sera capable de fixer les territoires qu'elle a conquis.
Vous avez raison d'insister. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que pour la première fois, en fait, il nous revient aux oreilles, nous, des journalistes professionnels qui avons des contacts sur place, que les généraux israéliens eux-mêmes critiquent à demi-mot la stratégie de Netanyahou, notamment à travers un certain nombre de travaux qui émanent de l'INSS. L'INSS, si vous voulez, c'est l'Institut National d'Études Stratégiques qui est basé à Tel Aviv. C'est un think tank qui est un peu l'équivalent de l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales à Paris. Autrement dit, ce sont des think tanks qui sont très endogamique avec les armées françaises à Paris et israéliennes. Donc il y a des échanges continus. Et là, à travers un certain nombre de travaux, on apprend que les généraux israéliens se plaignent désormais clairement d'une stratégie jusqu'au boutiste, sans plan en fait, qui conduit en fait à mettre en échec les unités, à les épuiser. Et avec un risque que les généraux soulignent et qui les inquiète, c'est une fragilisation du soutien que Tsahal a dans la société israélienne. Cette société israélienne, en fait, dont le ciment aujourd'hui est toujours et surtout, et peut-être uniquement désormais, le souvenir du 7 octobre. C'est ce qui explique sans doute que 58% des Israéliens veulent que Netanyahou augmente sa guerre contre les Hezbollah. Mais c'est une société israélienne que les généraux israéliens, mais pas seulement eux, ils sont inquiets de voir que cette société est aujourd'hui très fracturée, très fatiguée par cette guerre qui n'en finit plus depuis 2023. Et les généraux israéliens eux-mêmes critiquent à demi-mot en fait cette stratégie, car ils savent très bien, la plupart des généraux aujourd'hui ont tous fait la guerre déjà contre le Hezbollah. Donc ils ont le souvenir, les leçons, l'expérience de ce terrain dans lequel ils savent qu'ils ne seront jamais des vainqueurs. Et ça, c'est nouveau. Cette armée israélienne, et vous l'avez dit, non seulement est engagée de force dans les collines du Liban, mais elle est également aujourd'hui susceptible d'intervenir en Cisjordanie, où les colons israéliens, par leur haine et leur agression permanente en fait suscite en fait des mouvements chaotiques qui pourraient conduire l'armée israélienne à devoir intervenir. Et évidemment, l'effort de guerre contre l'Iran aujourd'hui est majeur, à telle enseigne que l'économie israélienne est quand même fragilisée et que jamais l'économie israélienne n'a été aussi endettée sur les marchés internationaux.
Eh bien, merci beaucoup d'être revenu, et vous avez raison, c'est sur le temps long qu'on vérifie la pertinence des analyses. Merci beaucoup d'être revenu sur le Liban, Meredek Raffray, et à la semaine prochaine pour peut-être parler d'une autre région.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite.
Et pour sa chronique hebdomadaire, eh bien, nous retrouvons Victor Robert, directeur général d'Academia Christiana. Alors, bonjour Victor, ce matin nous parlons de la protection de l'enfance et de l'Église. On entend partout que pour protéger les enfants des prédateurs, il suffirait d'obliger les prêtres à rompre le secret de la confession. Pardon, c'est d'ailleurs ce que tentait de faire ce qu'on a appelé la loi Betaram. Mais vous, Victor, vous affirmez que cette idée, sous couvert de bons sentiments, est non seulement inutile, mais qu'elle mettrait carrément les victimes en danger. Alors pourquoi ce paradoxe?
Alors bonjour cher Alexandre, bonjour chers auditeurs. En effet, il s'agit d'un argumentaire qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, c'est-à-dire que finalement, si on veut vraiment préserver les enfants, il faut mettre toutes les chances de notre côté et que toute personne qui entendrait un témoignage, eh bien, aurait le devoir, un devoir qui lui serait imposé par la loi, eh bien, de révéler. Mais si on se pose sincèrement la question, est-ce qu'un criminel qui sait que le prêtre va avoir l'obligation de révéler des faits entendus même dans le confessionnal qui pourraient faire avancer une enquête, est-ce que ce criminel ira finalement parler de cela à un prêtre? C'est évidemment une évidence que non. Alors, si l'État forçait déjà à ôter le secret de confession, déjà d'un point de vue purement pragmatique, il perdrait peut-être un des seuls leviers qui permet à un prêtre d'inciter un coupable à aller se dénoncer, à aller se livrer aux autorités, à essayer de réparer sa faute. Donc, en voulant légiférer sur cette affaire de confessionnal, les parlementaires montrent au mieux leur ignorance totale de la confession, au pire, un acharnement qui est vraiment idéologique contre le christianisme en France.
Mais alors d'où vient cette urgence? Pourquoi est-ce que l'État s'attaque si soudainement à ce secret millénaire?
Alors, comme vous l'avez dit, tout ça fait écho donc, au scandale de Notre-Dame de Betaram en janvier 2025, donc des faits de violence dans un grand pensionnat, et un rapport parlementaire donc, qui a été déclenché par cette affaire, tend à mettre en cause l'enseignement privé sous contrat et en particulier le manque de contrôle de ces établissements. Donc ça a déclenché de très très nombreuses inspections dans les établissements privés sous contrat catholiques, mais à côté de ça, on sait très bien que les scandales sur l'encadrement du périscolaire dans les écoles publiques ne dépendaient pas du privé sous contrat, mais justement des mairies, et que les défaillances dépassent donc largement le contexte de l'Église catholique.
Mais alors, c'est quoi le lien avec le secret de la confession?
Pour moi, tout ça ressemble quand même un peu à un contre-feu ou à une sorte de diversion, hein, un peu pour masquer l'incompétence et tout ce qui avait été mal géré depuis des années. Eh bien, le législateur produit, donc c'était l'article 9 de cette loi, hein, aucun secret de la confession ne saurait s'opposer à l'obligation de dénonciation des faits de violence sur mineurs. Ainsi, en cas de non-signalement d'un mineur en danger, les prêtres auraient encouru donc les peines prévues par ce délit, soit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Alors, heureusement, le 1er juin, donc face à l'action de nombreux députés, donc notamment du Rassemblement national, de la droite républicaine et du MoDem, eh bien, il y a eu un nombre record d'amendements qui ont été déposés, et tout ça donc, a risqué déjà, d'une part, de créer un risque d'inconstitutionnalité. Mais donc, ce texte a été enlevé du texte de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui va repasser au Sénat la semaine prochaine.
Donc, le danger est écarté?
Alors, pour l'instant, oui, mais en fait, c'est souvent un peu un marronnier, cette histoire du secret de confession. Ça revient, il y a un certain nombre d'associations, à la fois laïcistes, à la fois de défense de victimes, qui reviennent à la charge, on va dire, tous les 2, 3, 4 ans. Et donc là, le texte, effectivement, a été voté sans le retrait du secret de confession à l'Assemblée nationale. Il passe au Sénat. On ne sait pas finalement quel peut être le poids de ces associations et de ces lobbies, puisque plusieurs personnalités publiques ont critiqué beaucoup la notion de secret de confession. Donc, voilà, on ne sait pas finalement où tout ça va nous mener.
Et alors, pourquoi vous dites que ça mène nulle part? Parce que théoriquement, on devrait tout faire pour libérer la parole.
Alors, bien sûr qu'il faut tout faire pour libérer la parole, c'est évident, mais il faut aussi comprendre ce que c'est que la confession. La confession, ce n'est pas un geste profane comme si vous alliez chez un psy ou comme si vous alliez parler avec un adulte, un médecin éventuellement recouvert du secret médical. La confession, finalement, c'est un geste qui appartient aussi au domaine du surnaturel. Alors tout ça, c'est incompréhensible, effectivement, aux républicains laïcistes, mais le prêtre, dans la confession, il ne s'appartient pas. Il agit comme un ministre de Dieu, il essaye finalement de s'oublier derrière le sacrement. Et le pénitent, bah, il n'est pas là en train de donner une information à un prêtre, il ne va pas rencontrer quelqu'un qui va l'apaiser et ce n'est pas une consultation. Hein. Il demande pardon à Dieu par l'intermédiaire du prêtre. Donc tout ça, encore une fois, dans notre société très matérialiste, très déchristianisée, ça paraît absurde. Mais d'autre part, il faut aussi oublier qu'une telle mesure est absurde parce que c'est déjà très rare aujourd'hui en France que des auteurs d'actes pédophiles ou d'abus sur mineurs viennent se confesser régulièrement sur leurs méfaits. Mmh. Mais en plus, ce serait totalement impraticable parce que dans la confession, la plupart des confessionnaux, eh bien, le prêtre ne voit pas la personne directement qu'il confesse. Donc ça voudrait dire en fait que l'État serait en quelque sorte obligé de mettre des caméras dans les confessionnaux, d'enregistrer les conversations. Enfin, on voit bien que tout ça est évidemment purement idéologique et n'a pas pris les conséquences finalement de ce que donnerait l'application d'une telle loi en France.
Mais alors, pour conclure, si on refuse de toucher au secret de la confession, comment agit-on concrètement ?
Ben en fait, je pense que les solutions, en fait, elles sont déjà là, c'est juste qu'elles ne sont pas suffisamment appliquées ou pas bien appliquées. Alors, il y a tout un certain nombre de protocoles, de signalements qui existent en dehors du confessionnal. La formation des prêtres a été bien transformée et tous ces sujets-là, finalement, ont été intégrés dans la formation des prêtres. Il y a des chartes au niveau de la confession, il y a une formation. Donc, en fait, voilà, tout ça, c'est quand même, encore une fois, beaucoup d'émotions médiatiques qui est déclenchée autour, mais défendre le secret de la confession, c'est donc pas protéger les coupables, c'est refuser justement de livrer à la puissance publique un des derniers refuges inviolables justement dans lequel l'âme va pouvoir justement essayer de se libérer et de demander le pardon de Dieu. Donc, c'est l'examen de ce texte arrive au Sénat et chers auditeurs, je vous invite à rester vigilants.
Merci beaucoup Victor Robert et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour votre prochaine chronique.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Alexandre, bonjour Franck,
bonjour Gilles.
Chers auditeurs.
Quelle politesse. Alors le pape Léon est en train de conquérir le sol espagnol le peuple espagnol pardon, et en même temps il affirme les bases de son pontificat.
Oui, d'abord il est bon de souligner, comme le fait le quotidien Ouest France, que la venue de Léon XIV marque un événement historique pour l'Espagne. Aucun pape ne s'y était rendu depuis 2011 lors des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid sous Benoît XVI. Son prédécesseur François n'a jamais effectué de déplacement dans le pays durant son pontificat, malgré plusieurs invitations officielles, et le voyage de juin 2006 vient donc combler une absence longue dans un pays pourtant historiquement très lié au catholicisme, et ce fut une première pour un pape au sein des Cortes. Alors jamais ce pape, depuis son élection en mai 2024, n'avait encore été aussi explicite sur ce qu'il entend accomplir, écrit Jean-Marie Guénois dans les colonnes du Figaro. Pour le chroniqueur religieux, le pape a choisi l'Espagne pour jeter les bases de son pontificat. Alors devant le Parlement espagnol lundi matin, Léon XIV a prononcé donc un discours sans précédent sur les relations entre Église et État. Un renouveau moral s'impose sur le plan politique et géopolitique, a-t-il prévenu, avant d'insister. Toute société véritablement juste se fonde sur la reconnaissance de la dignité inviolable de la personne humaine. La nouveauté est que Léon XIV revient à la vision de Benoît XVI sur les sociétés démocratiques occidentales. Cette dignité de la personne, dit-il, précède toute concession de l'État et ne peut être subordonnée à des consensus sociaux changeants ni aux aléas des majorités du moment.
Et le pape a prononcé un véritable éloge de la vie.
Oui, alors si la vie cesse d'être reconnue comme une valeur fondamentale, quel avenir nos sociétés peuvent-elles avoir, a-t-il lancé. Avant de poursuivre, peut-on qualifier de pleinement juste une communauté qui laisse dans l'ombre l'enfant à naître, la personne âgée, le malade, celui qui souffre en silence ou celui qui dépend entièrement des soins d'autrui. La défense de la vie humaine n'est ni une question partielle, ni un intérêt confessionnel, c'est un objectif de civilisation. Autant de propos qui, au terme d'un discours qui n'allait pourtant pas dans le sens du vent dominant, ont déclenché une ovation chez tous les parlementaires, alors que chacun avait témoigné d'un vif intérêt et d'une grande attention. Tous se sont levés, y compris les plus anticléricaux, et ont applaudi le pape durant 8 minutes et pendant 10 minutes, selon la Croix d'ailleurs.
Et bien, selon le retour sur l'affaire Liana, maintenant le gouvernement est mobilisé avec Gérald Darmanin en première ligne.
Oui, alors que des milliers de personnes ont manifesté hier devant les tribunaux et notamment place Vendôme, alors que le rassemblement était interdit, le ministre de la Justice a affirmé lors d'une conférence de presse que s'il y a eu des défaillances, il y aura sanctions. Alors Marie-Amélie Lombard-Latune écrit dans l'Opinion qu'il a affirmé qu'il proposerait des sanctions au Conseil supérieur de la magistrature qui iront du blâme à la révocation du haut magistrat, si c'est le cas. Mais qui vise-t-il ? Les procureurs généraux d'Agen, Toulouse ? La procureure d'Auch ? Les enquêtes administratives seront rendues dans une quinzaine de jours et serviront de base justement aux éventuelles poursuites devant le CSM. Mais voilà, on s'en souvient, Emmanuel Macron avait pourtant demandé à ce même conseil de mieux appréhender l'insuffisance professionnelle du magistrat dans son office juridictionnel, mais c'était aux yeux des magistrats, ajoute le journaliste, franchir la ligne rouge, celle de l'indépendance des juges. Une décision de justice se conteste devant les tribunaux par le jeu de l'appel et de la cassation, mais non par des procédures disciplinaires, martèle-t-il. Alors on lira dans le Parisien un article glaçant d'ailleurs qui évoque ces citoyens qui traquent les pédocriminels un peu partout en France et notamment le bénévole d'un collectif qui piège les prédateurs en ligne. L'association a déjà envoyé en prison plus de 300 d'entre eux.
Wow. Et puis alors que Patrick Bruel a été mis en garde à vue, le site Boulevard Voltaire revient sur le phénomène Bruel et ses prises de position contre le RN.
Oui, alors Marine Le Pen a refusé de hurler avec les louves, écrit Marie Delarue, et si elle a qualifié de véritable honte tous ces gens qui se comportent comme des porcs avec les femmes, elle a tenu à rappeler qu'il y a un principe fondamental dans le droit, c'est la présomption d'innocence. Tant que vous n'êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent. Marine Le Pen n'est pas rancunière, poursuit la journaliste de Boulevard Voltaire, c'est le moins qu'on puisse dire, car Patrick Bruel n'a pas eu les mêmes égards pour son mouvement, ouais, faisant depuis toujours du Front National, puis du RN, sa bête noire. En avril 2014, dans le cadre d'un entretien exclusif accordé au magazine Technicart, Patrick Bruel avait exprimé un refus catégorique et sans concession de se produire sur scène dans les villes fraîchement conquises par le Front National lors des dernières élections municipales. Pas de Bruelmania donc à Béziers, Fréjus ou Hénin-Beaumont, car disait-il, même si je peux comprendre que des électeurs désespérés répondent à un discours populiste, je ne veux pas me produire devant une institution dont je méprise l'idéologie. Et de rappeler qu'il avait déjà annulé en 1995, pour les mêmes raisons, des concerts programmés à Orange et Toulon, qualifiant le parti de xénophobe et raciste.
Et pour finir, vous avez lu le portrait du nouveau maire de Venise, âgé de seulement 38 ans, le plus jeune élu de la cité des Doges.
Oui, alors en dernière page du Figaro, Valérie Segond raconte l'ascension d'un jeune élu passé du centre-gauche au centre-droit jusqu'à devenir en mai dernier maire de la ville italienne. Alors il s'appelle Simone Venturini, il se veut inclassable, venant des démocrates chrétiens, je suis un modéré, dit-il. Aux européennes, je ne me souviens pas si j'ai voté pour Forza Italia ou Azione, un parti du centre. Mais j'apprécie le travail de Giorgia Meloni et je pourrais voter pour elle aux législatives. Alors comme tous, avant lui, il promet aujourd'hui de mettre un coup d'accélérateur sur l'installation d'entreprises en créant cette fois un conseil international pour attirer les investissements dans la ville. Et il se montre très accessible, aimable et urbain et vit à deux pas de la mairie de Venise alors que son prédécesseur vivait à Mestre. Il s'adresse aux Vénitiens non comme un homme d'appareil, faisant la promotion de valeurs abstraites, mais comme un jeune entrepreneur aux prises avec leurs problèmes concrets à résoudre. Voilà, c'est à lire en dernière page du Figaro. Et puis vous savez aujourd'hui, mon cher Alexandre, que c'est la fête, la Richard, journée internationale du petit déjeuner. J'espère que vous mangez des protéines, des œufs, du fromage et que vous buvez du thé pour avoir des polyphénols et pour vous tenir éveillé jusqu'au déjeuner.
Beaucoup de café. Moi, oui, c'est ça ma doctrine.
Pas. Et surtout,
zone libre.
Voilà.
Zone libre.
Parce que là, on aborde les sujets essentiels, donc je préfère qu'on fasse ça dans un cadre respectueux et républicain.
Et au petit déjeuner, on prend ce que vous nous apportez, cher Gilles, le matin.
Oui, bah, c'est-à-dire pas grand-chose.
Alors, non, alors, on va remettre les choses à plat. On a besoin de toute façon de calories. C'est vrai qu'on pourrait manger un croissant. Moi, je vous conseille d'en manger un ou deux par semaine. Manger des œufs surtout, il y a des protéines. Et ça, vous pouvez en manger 10 par jour, c'est pas un problème. Vous pouvez manger un peu de jambon, un peu de fromage. Des laitages comme du fromage blanc par exemple, et puis du miel, de la confiture, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Surtout ne prenez pas de jus de fruits avant d'avoir pris des sucres lents, avant d'avoir pris votre café, votre chocolat et votre thé. C'est très mauvais pour
l'estomac. Suivant ces conseils, vous avez le beau teint de Gilles.
Oui. C'est ça, c'est les conseils santé, mais déjà...
Nutritionnel.
Exactement. La première question que je pose, c'est quand vous faites pour arriver à l'heure, si vous faites des tels petits déjeuners chaque matin?
Eh ben, je prends du temps et je cadre toujours. Moi, je travaille en me levant.
Vous êtes en robe de chambre. Je suis sûr que vous êtes en peignoir en robe de chambre quand vous prenez votre petit déjeuner.
Ça va dégénérer.
C'est évident. Ouais. Non, mais c'est évident.
Ça dépend. Alors, le week-end, oui, mais dans la semaine, je travaille, j'écris, je lis, je me lève à 5h30 ou 6h, et ensuite je... Tous les matins, et ensuite je prends je fais ma toilette et je termine par mon petit déjeuner.
D'accord, voilà. Très bien.
Et là, j'ai mis du thé dans mon thermos, quand je vais rentrer, je pourrais boire une ou deux tasses de thé,
vous
voyez.
Eh ben, vous en avez de la chance, non, je sais pas, moi j'avoue que je suis très petit déjeuner français, c'est-à-dire café, clope.
Ah, ouais, d'accord.
Et c'est tout. Un café, une cigarette, et puis je suis parti pour la journée.
J'ai oublié de dire que vous pouvez manger des fibres. Donc, dans les fibres, c'est les pains complets, c'est le pain avec certaines farines, c'est très bon. Moi, je mets du beurre et de la confiture et du miel. Hein. Le miel, c'est bon pour la voix, parce que vous avez vu, j'ai une voix un peu rauque, et le miel, ça adoucit mes cordes vocales.
Une voix de crooner.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Mais effectivement, mais alors, pourquoi vous disiez qu'il ne faut pas prendre de jus de fruits avant des sucres lents?
Parce que si vous prenez, par exemple, de l'orange, du pamplemousse, même un jus de citron, c'est très acide et vous êtes resté quand même 7 heures dans la nuit, 6 heures, 7 heures dans la nuit sans rien avaler. Et donc, ça va attaquer votre pancréas. Et ça, c'est très, très mauvais. Toujours, et moi, je me bats dans les hôtels. Par exemple, ce soir,
battez dans les hôtels.
Oui, ils veulent me servir un jus de fruits avant mon thé. Et ça, je leur ai expliqué 100 fois que c'était pas possible. Voilà.
Ouais, mais ce serait tant qu'ils retiennent la leçon à force.
Bah oui, mais surtout que je change d'hôtel tout le temps.
Bah oui, forcément.
Voilà.
Donc,
alors, la nouvelle mode, vous avez vu, on vous demandait des œufs à la coque. Maintenant, on vous sert plus les chapeaux.
Ah oui ?
L'œuf est décapité, on ne sait pas ce qu'ils font du chapeau, donc il faut réclamer les chapeaux et manger l'intérieur du chapeau.
Il y a un trafic de chapeaux d'œufs à la coque, je pense. Suivez-moi, regarde.
Voilà. Très bien. Et autrefois, quand on demandait des œufs à la coque, on en avait par deux, c'était des jumeaux, maintenant ils vous en donnent qu'un pour le même prix. Bah. Ça aussi, c'est pas normal.
Oui. Mais écoutez, quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
C'est Gérard Larcher qui avait un message pour vous.
Ah, oui,
je vous demande de vous arrêter.
Non, c'est vous concluez celui-là.
Je vais conclure, alors merci, parce que je vais conclure, car c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. Simplement, avant que vous en alliez, eh bien, on a une petite requête que Franck va vous formuler.
Je formule la requête suivante, chers auditeurs et donc financiers de Radio Courtoisie, puisque vous êtes les seuls à participer au financement de notre radio depuis 1987. Eh bien, rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour faire votre participation, nous faire un don en ligne, soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et bien sûr, un grand merci d'avance.
Merci beaucoup et tout de suite, on écoute Rodolphe Kart, eh bien, qui nous parle du meeting de Saint-Denis, la Melasse Mélenchon.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir ici Rodolphe Kart. Bonjour Rodolphe.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, dont évidemment Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire que vous aviez publié en octobre 2025 et pour lequel on a dû vous inviter des centaines de fois finalement ces derniers mois.
C'est toujours un plaisir.
Merci. Première chose, il y a eu le premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon ce week-end à Saint-Denis. 26 000 personnes qui étaient présentes à un an de la présidentielle. C'est une démonstration de force réussie là, non ?
Ah bien sûr, les images parlent d'elles-mêmes. On a cet effet de masse justement dans les rues de Saint-Denis et même, j'ai envie de dire, au niveau de la réalisation, on voyait qu'il y avait une volonté aussi de mettre en avant la basilique. De l'autre côté, la mairie avec le nouveau maire Bali Bagayoko. Donc oui, comme d'habitude, mais c'est pas vraiment une surprise. La France Insoumise nous a accoutumé à un professionnalisme, et une mise en scène, en tout cas pour mettre en avant Jean-Luc Mélenchon et lancer le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui est à chaque fois assez innovante. Alors là, par contre, pas d'hologramme. Vous vous en souvenez aussi de ces lancements-là. on part sur quelque chose peut-être d'un peu plus conventionnel. Et d'ailleurs, pas mal d'évocations de 2017, qui est à mon avis la meilleure campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Ne pas oublier que lors de sa première campagne en 2012, il fait 4 millions de voix, ce qui est quand même beaucoup déjà à l'époque. 5 ans plus tard, en 2017, il est déjà à 7. Donc là, le bond électoral est vraiment, pour le coup, assez conséquent.
Ouais. Et alors, justement, sur ces questions un petit peu formelles, deux choses qui sont intéressantes. Peut-être la première, simplement que d'habitude, Jean-Luc Mélenchon, qui se tient très éloigné de son pupitre, qui est très souriant, qui va être effectivement essayer de jouer un petit peu avec la foule, là, on le sent beaucoup plus sérieux et déterminé.
Oui, des fois, il est même un peu volubile, c'est-à-dire il va marcher, faire les 100 pas. D'ailleurs, il y a parfois des configurations où le public est à 360 degrés autour de lui. Là, non, il est face à son public, face à cette rangée humaine qui était vraiment, en plus, assez étirée dans, dans les rues de Saint-Denis.
Donc, il lit son discours.
Oui, il est quasiment martial, mais j'ai envie de dire, oui, Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Et d'ailleurs, si on le compare aux autres candidats de gauche, on va dire que lui fait un peu, excusez-moi la comparaison, de la Champions League pendant que les autres sont en Ligue 2. Oui. D'ailleurs, on a même le cas de la double primaire qui a été évoqué. Donc on voit vraiment d'un côté un homme en ordre de bataille avec ses troupes et de l'autre côté une gauche éparpillée façon Pulse qui se cherche et qui est un peu en panique devant.
Un déficit d'incarnation.
Exactement. Et cette dynamique qui est pour le coup assez conséquente et qu'il faut analyser quand même.
Et alors, autre chose qu'on peut relever déjà, c'est la présence d'Annie Arnaud, de la présence en réalité de personnes qui ne sont pas des politiques pour aller mettre en avant ce meeting. Même on voyait dans la foule la chanteuse Zao de Sagazan finalement on sent que là cette campagne c'est on va dire l'ultime campagne et que je vais filer la métaphore mais en disant que les Avengers du gauchisme se sont réunis pour soutenir Mélenchon.
Oui, c'est fondamental d'avoir aussi des relais dans la société civile. Alors vous avez mentionné Annie Ernaux qui a fait un discours avec affublé d'un keffier. On a aussi toujours, et d'ailleurs c'est un article du Parisien qui nous l'a révélé, une volonté de mettre la main sur les influenceurs, ça c'est fondamental. Il y a eu des contacts avec Squeezie, Léna Situation et Théodora, c'est peut-être des personnes qui diront pas grand-chose à une partie de nos auditeurs, mais il faut vraiment comprendre que c'est des personnalités, chacun dans leur domaine, qui sont suivies par des millions de personnes.
Squeezie, alors deuxième plus gros youtubeur de France, Théodora, une chanteuse qui est particulièrement en vue, Léna Situation, effectivement pareil, youtubeuse, influenceuse féminine, on va dire, qui
est mode surtout.
Et mode, voilà, effectivement, c'est des relais d'opinion importants. Et là, on sent encore une fois que ce qui se passe, c'est que tout le monde va être mobilisé durant cette campagne jusqu'au bout, ce qui n'avait pas été fait par le passé déjà.
Oui, oui, et là, il y a vraiment une volonté. Jean-Luc Mélenchon se projette déjà pour le second tour et même pour le premier. On sait aujourd'hui que dans certaines strates, que ce soit dans le monde universitaire, dans le monde culturel, dans le monde associatif, dans le monde sportif, de la musique avec les rappeurs, il va falloir à un certain moment pousser ces gens-là à dire justement à leur public cible « engagez-vous, attention, la montée du fascisme, etc. etc. » Ça fait partie de la mobilisation de la société civile. Et c'est vrai que la France insoumise n'est pas encore un parti de masse à l'ancienne, on pourrait dire. Même si, il y a quand même la prémisse, là on le voit à travers des manifestations comme on l'a connu au meeting, qui nous indique certaines choses. D'ailleurs, c'est peut-être aujourd'hui le seul parti politique, avec le Rassemblement National, à avoir ce socle inamovible. Alors, pour la France Insoumise, on le détermine entre 10 et 12%, quand peut-être celui du Rassemblement National est au double. Mais par contre, là aussi, il faut voir la dynamique.
Oui.
Le Rassemblement National est un parti de masse électorale, ce que n'est pas encore la France Insoumise. En revanche, j'ai envie de dire que la France Insoumise, dans le sens, on va dire, un peu parallèle d'un parti politique, c'est-à-dire d'imprégnation dans la vie politique française, mais aussi dans la société civile, j'ai envie de dire que là, peut-être que la France Insoumise a un cran d'avance, en tout cas, sur le reste des autres partis politiques en France.
Mais alors, sur deux points. D'abord, effectivement, vous parliez de parti de masse. C'est vrai que là, il faut dire que 26 000 personnes réunies pour un premier meeting de campagne, mais si je me souviens bien, en 2022, il y a peut-être un meeting, qui est celui des Zemmour au Trocadéro, qui réunit plus de monde, et encore pas beaucoup plus, je pense, mais c'est le seul de toute la campagne.
Oui, puis c'est un meeting, il me semble, de fin de campagne. Oui. En plus, là, on est quand même à moins d'un an, avant l'été. Donc il faut quand même les bouger, excusez-moi, les personnes. Alors vous me direz, oui, Saint-Denis avec Perfide, c'est la deuxième ville d'Île-de-France, c'est un bastion, on le sait, France Insoumise. Ouais. D'un autre côté, la métropole parisienne, qui a un gros vote aussi, France Insoumise, est pas très loin, donc c'était plutôt aisé de déplacer les gens. Oui, bah, faut quand même les déplacer, les gens, un dimanche après-midi, plutôt ensoleillé. Donc non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement, il y a une dynamique qu'il faut absolument pas sous-estimer du côté de la France insoumise. Et là, peut-être, cette volonté de rejouer un peu cette campagne de 2017. On a vu, ils ont ressorti pas mal de drapeaux bleu, blanc, rouge. Mais là aussi, on les avait peut-être trop souvent catégorisé dans une volonté un peu sécessionniste anti-France. Non, il joue très bien sur les symboles.
Là, il y a une nouvelle stratégie qui est mise en place, notamment par certains députés comme Antoine Lehoman, qui est vraiment de mettre le drapeau français presque entre les mains de personnes qui sont descendantes de l'immigration, et en leur disant, mais en fait, ce drapeau, c'est le vôtre, et quelque part, mettez le sens que vous voulez derrière, mais prenez-le. Parce que si vous le prenez pas, effectivement, vous allez passer pour l'anti-France. On sent qu'il y a quand même cette nouvelle stratégie.
Oui, et d'ailleurs, quand on voyait certaines musiques avant que le meeting commence, il y avait des meetings qui étaient quand même assez aussi significatifs. Il y avait par exemple Ma France de Jean Ferrat.
Ouais.
Donc là, on parle à un certain électorat un peu plus âgé.
Il y a Ma France de Jean Ferrat, et en même temps Chargé, qui est une musique très récente, effectivement, et qui vont,
qui rentre un peu en collision.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est aussi le pari de Jean-Luc Mélenchon, et excusez-moi du peu, mais il fait de la politique. Et d'ailleurs on le voit par exemple avec les électorats du Rassemblement National, une partie des électorats du Rassemblement National vote pour ce parti pour des raisons qui sont parfois, je dirais pas opposées, mais qui sont différentes d'une aire géographique à une autre. Donc ça fait partie de la politique. Une offre politique, elle est vaste. Elle va plaire à certaines segmentations par certains arguments, et à d'autres par d'autres. Ça fait partie du jeu politique, et Jean-Luc Mélenchon arrive à tenir ça avec son concept de Nouvelle France, qui est absolument pas un concept à simplifier.
Je pense qu'on fera une émission, pour être tout à fait franc, on a que quelques minutes, Rodolphe, mais je pense qu'effectivement un jour on fera une émission complète sur ce sujet, parce que c'est effectivement intéressant. Simplement, sur un point de vue peut-être plus tactique, il y a aussi un point où on sent que cette année Jean-Luc Mélenchon a une stratégie radicalement différente des précédentes campagnes. C'est que cette fois-ci, dès le début, il veut tuer le match à gauche.
Ah bah bien sûr, ça aussi c'est un des enjeux.
Peut-être qu'il a peur finalement aussi, hein, quelque part, non ?
Alors déjà, le fait de l'avoir mis aussi haut dans les sondages très vite, c'est quand même un peu à double tranchant. Lui, ça lui permet un peu de pavoiser, de dire il y a une dynamique, c'est moi le seul homme capable d'accéder au second tour, etc., etc. Et c'est vrai qu'il a besoin aussi, dans cette quête d'accession au second tour, de jouer sur le vote utile. Il faut que, lors du premier tour, une partie des écologistes et une partie des communistes se disent il y a une seule carte à jouer pour qu'on ait un candidat de gauche au second tour, il faut la jouer dès le départ. Donc lui, il a tout intérêt justement à s'imposer comme le seul homme à gauche capable d'accéder au second tour. En revanche, de le mettre aussi haut, aussi vite, quand on sait que justement, côté bloc central, on a une incapacité à faire émerger un candidat aujourd'hui qui puisse jouer le trouble fait dans ce duel RN-LFI, peut-être que justement, ça va donner en tout cas une indication au bloc central qu'ils ont tout intérêt aussi à faire émerger une candidature, je dis pas qui sera au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon sur les sondages, mais en tout cas, pour empêcher qu'une partie de cet électorat petit bourgeois ne bascule à gauche. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu la même chose à droite, où on a certains candidats, par exemple comme Bruno Retailleau, on sent qu'ils sont là aussi pour retenir encore un certain électorat avant qu'il fasse la bascule exactement, Rassemblement National. Donc à gauche, ils sont aussi dans cette inconnue. Et Jean-Luc Mélenchon l'avait d'ailleurs dit en février à l'Obs, les petits bourgeois voteront. Les petits bourgeois social-démocrates qui aiment bien les Ruffin, des personnalités comme ça, voteront pour la France insoumise dès le premier tour. C'est son pari, et il a besoin de les séduire. Et d'ailleurs, Manuel Bompard s'est adressé hier aux communistes et aux écologistes en disant, ou en tout cas en les invitant à rejoindre directement ce front, parce que ne jamais oublier qu'il y a l'élection présidentielle de 2027, oui, mais il y a aussi la législative derrière. Et là, on voit la stratégie au long terme de Jean-Luc Mélenchon, c'est de sortir de cette situation bloquée tripartite, ou en tout cas de trois blocs, pour revenir à une situation binaire et dual, bloc de gauche, bloc de droite, dont lui se ferait la principale, le principal fer de lance de ce bloc de gauche. Donc là aussi, il faut peut-être voir aussi l'après-présidentielle. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a tiré un trait sur le second tour, quoique je pense que ça sera beaucoup plus serré que ce à quoi on s'attend, en tout cas s'il accède au second tour. Mais lui, il voit aussi l'après, c'est-à-dire de revenir et de basculer peut-être sur ce parti de masse que vous évoquiez, c'est-à-dire un bloc de gauche ultra dominant, ultra performant, dominé par les insoumis.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus, il bénéficie évidemment de l'absence d'incarnation au centre aussi, qui signifie donc une absence de rival pour justement l'accession au second tour. Peut-être dernier point, il nous reste deux minutes, Rodolphe Kert. Sur le fond, qu'a dit Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y a des choses, on a entendu parler bien sûr du SMIC à 1 700 euros, qui est sa nouvelle proposition, mais à part ça, est-ce que vous avez retenu d'autres choses, peut-être sur le fond de discours de Jean-Luc Mélenchon?
Justement, le concept de Nouvelle France, on ne peut pas le réduire à ce bouleversement démographique qu'on est en train de connaître. Oui, il revient dessus avec son fameux... un Français sur trois a des ancêtres immigrés, etc., etc. Mais son concept de Nouvelle France, ce n'est pas que ça. C'est aussi une France qui est de moins en moins rurale et de plus en plus urbaine. C'est aussi une France, comment dire, qui devient de plus en plus âgée. Il a beaucoup parlé aussi de cette bascule générationnelle. Donc là, il englobe un peu tout ça derrière son concept de Nouvelle France. Et après, par contre, vous retrouvez vraiment... comment dire, les piliers idéologiques et les mythes politiques qu'il aime bien mettre en avant pour comment dire, accompagner ce mythe de la Nouvelle France, c'est-à-dire le mythe antifasciste. Donc là, vous avez toute la diabolisation autour de Jordan Bardella, du Trumpiste. Il joue des cartes qui sont assez connues, mais qui sont des signifiants quand même à gauche. Et puis de l'autre côté, vous avez le côté écologiste, le côté antifasciste. Et puis le côté, du palestinisme, qui est aussi un mythe. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, il dédie ce meeting au peuple opprimé. Donc, il va mentionner le Congo, l'Ukraine, et à la fin, le peuple martyr, victime d'un génocide, etc., la Palestine. Donc là, vous voyez la dimension internationale anti-impérialiste.
Bien sûr.
Donc, il faut le reconnaître, Jean-Luc Mélenchon a une ligne cohérente, à une ligne déterminée, il n'a pas d'adversaire en son parti et il avance à toute berzingue.
Ouais, c'est vrai que peut-être en 30 secondes, mais on sent que il y a aussi eu un tout petit changement dans l'état-major aussi de LFI, où certains sont plus mis en avant que d'autres.
Oui, ça c'est certain. Il a toujours eu son cercle premier. D'ailleurs, on l'a vu lors de sa déclaration de candidature à TF1, il fallait voir les gens qui l'accompagnaient. Madame Chikirou, Madame Guettet, Bompard et Coquerel, mais je suis pas sûr. Donc là, vous voyez vraiment le cercle. À côté, on a des petits généraux un peu plus volubiles. On pense à Loïc Boyard, Rima Hassan, etc., etc., qui bougent un peu dans tous les sens. Guiraud aussi, qui est une personne d'avenir, je pense, sur laquelle la France Insoumise va insister. mais là, vous voyez vraiment, son cercle restreint avec ses personnalités.
Merci beaucoup, Rodolphe Kert, d'avoir été avec nous ce matin, ici sur Ligne Droite. Et écoutez, on vous retrouvera bientôt, sans doute, pour parler peut-être de cette Nouvelle France plus dans le détail. Merci beaucoup.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Écoutez, on touche à la fin, mais il va falloir tout de même que vous restiez un petit peu, car nous avons besoin de vous.
Voilà, ne vous enfuyez pas tout de suite, écoutez ce message. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire à vous dans votre voiture, dans votre cuisine, devant votre radio ou votre ordinateur. Soutenir.rc.fr pour participer à la vie de Radio Courtoisie et à son financement, avec la possibilité de faire des dons récurrents chaque mois, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur la trésorerie très appréciable. Soutenir.rc.fr pour nous aider à défendre vos idées. Un grand merci d'avance.
Voilà, et puis quel sera le programme du jour, Franck?
Restez bien avec nous dans quelques secondes. Lafayette entre France et Amérique, une exposition à ne pas manquer aux Archives nationales dans les mardis de la mémoire d'Anne Collin. À midi, le libre journal de la musique et de la culture de Didier Rochard. Aujourd'hui, un jeu et la synesthésie. Et puis à 17h, vous pourrez entendre Populaire, vous avez dit Populaire de Renaud Dourge avec Éric Foissier pour son livre Les Archanges de la Nuit. À 17h30, Restons Courtois avec Richard Decez pour un grand débat spirituel et scientifique aux côtés des écrivains Mathieu Lavagna et Christophe Dickès. Ensemble, ils s'interrogent, l'histoire et la foi sont-elles en contradiction ou en convergence? À 19h30, le libre journal de la France libre d'Henri Foucreau, document d'archives sur la Nouvelle-Calédonie, la Corse, Mayotte et les départements d'outre-mer en danger. 21h30, le libre journal de l'Occident de François-Xavier Jiquel. Enfin, à 23h, rendez-vous avec Stéphane pour notre soirée musicale consacrée à Albéniz, les suites espagnoles et Iberia.
Merci beaucoup. Et puis demain, on peut vous, déjà vous annoncer, chers auditeurs, qu'on recevra Romain Lemoigne, maire RN de La Flèche, qui viendra s'exprimer dans cette matinale. Je vous dis merci beaucoup. Et puis à demain.
Voilà, ça nous fera moins une flèche dans cette émission. Bonne journée à tous et à demain, 7h.